Paris veut être libre.
Dans la vieille cité française,
un mouvement insurrectionnel éclate.
La commune est réclamée.
Vive la commune!
Et 10 millions de bonne foi, quel est cet état social? L'inégalité le ronge. L'insolidarité le tue. Des préjugés antisociaux les prennent dans leurs mains de fer. Les jouissances ne sont que pour le petit nombre qui les épuise dans ce qu'elles ont de plus raffiné. La masse, la grande masse, languit dans la misère et l'ignorance. Le salaire de l'ouvrier ne lui donne pas le nécessaire.
À qui la responsabilité? Sinon à ceux qui nous gouvernent. Conduit jusqu'au bord de l'abîme.
En avant pour la République, pour la commune et pour la liberté.
Place au peuple, place à la commune.
Aux armes.
Les Versaillais cheminaient toujours. Dans la nuit du 13 au 14, le fort de Vanves, qui ne tirait plus que de rares bordées, s'éteignit encore et ne put se rallumer. La garnison, coupée de partout, se retira par les carrières de Montrouge. Les Versaillais occupèrent ce qui restait du fort. Il y eut encore ovation à Versailles. Le 16, Paris n'avait plus un seul défenseur depuis la rive gauche jusqu'au Petit Vanves, où 2000 fédérés environ étaient campés sous le commandement de la Cécilia et de Lisbonne. Ils essayèrent sur le village d'ici un retour qui fut repoussé. L'ennemi put continuer ses travaux d'approche et armer les deux bastions du fort d'Issy qui regardaient la ville. Leur feu, contrarié un instant par les remparts, conquit une supériorité marquée et s'ajouta aux batteries qui écrasaient le 16e. Ce malheureux arrondissement était pris de front, de flanc, en enfilade, par près de 100 bouches à feu. On voulut bien alors songer un peu à la défense intérieure. La minorité était véritablement maltraitée. Déjà, quand il s'agit de remplacer de l'écluse, la majorité avait préféré à Varlin un homme tout à fait indigne, Billioray. Et depuis qu'elle avait éliminé Varlin à l'intendance, Vermorel de la Sûreté longuait de l'officiel. Irritée et très inquiète aussi du désordre grandissant, elle voulut dégager sa responsabilité et le fit dans un manifeste apporté à la séance du 15. La majorité avertie ne vint pas, à l'exception de 4 ou 5 membres. La minorité fit constater l'absence, envoya sa déclaration aux journaux. « La commune, disait-elle, a abdiqué son pouvoir entre les mains d'une dictature à laquelle elle a donné le nom de comité de salut public. La majorité s'est déclarée irresponsable par son vote. La minorité affirme au contraire que la commune doit au mouvement révolutionnaire d'accepter toutes les responsabilités. » Quant à nous, nous revendiquons le droit de répondre seuls de nos actes sans nous abriter derrière une suprême dictature. Nous nous retirons dans nos arrondissements. Les électeurs, que plusieurs d'entre eux réunirent, les invitèrent à reprendre leur poste. Mais le coup était porté. Les journaux versaillais poussèrent des cris de joie. Les protestataires comprirent leur faute et 15 d'entre eux se présentèrent à la séance du 17. Pascal Grousset interpelle les membres de la minorité et finit par les appeler « Girondins ». La discussion s'envenime. Vallès, qui avait signé le manifeste, « J'ai déclaré qu'il faut s'entendre avec la majorité, mais il faut aussi respecter la minorité qui est une force. » Une explosion interrompt la querelle. Billioray se précipite dans la salle et annonce que la cartoucherie de l'avenue Rapp vient de sauter. Tout le quartier de Grenelle est soulevé. Une gerbe de flammes, de plomb fondu, de débris humains, de poutres brûlantes jaillissant du champ de Mars à une hauteur énorme a semé de projectiles les environs. 4 maisons s'écroulent, plus de 40 personnes sont mutilées. La catastrophe serait terrible encore si les pompiers de la commune n'accouraient arracher du milieu des flammes des fourgons de cartouches et des tonneaux de poudre. Une foule affolée arrive et croit au crime. Quelques individus sont arrêtés, un artilleur est conduit à l'école militaire. Où est le coupable? Personne ne l'a dit. Ni la commune, ni son procureur n'instruisirent cette affaire. Comme celle du moulin saqué, elle resta ténébreuse. Pourtant, les ouvrières qui sortaient d'ordinaire à 7h du soir avaient été ce jour-là congédiées à 6h. On a vu que Charpentier demandait de la dynamite au colonel Corbin. Paris crut fermement à un complot. Les réactionnaires dirent « C'est la vengeance de la colonne Vendôme !» Elle était tombée la veille en grande cérémonie. L'ingénieur chargé de la démolition s'était engagé, au nom du club positiviste de Paris, par un contrat longuement motivé à exécuter, le 5 mai, jour anniversaire de la mort de Napoléon, le jugement prononcé par l'histoire et édicté par la Commune de Paris contre Napoléon Ier. On lui débauchait souvent ses ouvriers et l'opération fut retardée jusqu'au 16. Ce jour-là, à 2h, une foule remplissait les rues voisines fort inquiètes, car on prédisait toutes sortes de catastrophes. L'ingénieur, lui, s'était déclaré par son contrat en mesure d'éviter tout danger. Il avait scié la colonne horizontalement, un peu au-dessus du piédestal. Une entaille en biseau devait faciliter la chute en arrière sur un vaste lit de fagots, de sable et de fumier accumulés dans l'axe de la rue de la Paix. Un câble, attaché au sommet de la colonne, s'enroule autour du cabestan fixé à l'entrée de la rue. La place est remplie de gardes nationaux, les fenêtres, les toits, de curieux. Les musiques jouent la Marseillaise. Le cabestan vire, la police brise, un homme est blessé. Des bruits de trahison circulent. Une nouvelle poulie est bientôt installée. À 5h30, César oscille et son bras chargé de victoire vainement bat le ciel. Le fût s'incline d'un coup, se brise en l'air avec des zigzags et s'abat sur le sol qui gémit. La tête de Bonaparte roule et le bras homicide gît détaché du tronc. Une acclamation comme d'un peuple délivré jaillit de milliers de poitrines. On se rue sur les ruines et salué de clameurs enthousiastes, le drapeau rouge se plante sur le piédestal. Le peuple voulait se partager les débris de la colonne.
Donc bonjour Jean-Louis Robert. Vous êtes professeur émérite d'histoire à Paris 1 et président des Amis de la Commune.
Tout à fait. Bonjour.
Bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler de l'œuvre sociale de la Commune. On sait que ce gouvernement a été bref, mais a pris tout un tas de décisions qui feront date et qu'on va voir ensemble. On va commencer par les mesures sociales qui ont été prises par la Commune.
Oui, alors il y a des mesures sociales, je dirais, un peu dans l'urgence. Parce qu'il s'agit d'abord de nourrir la population dans une époque où l'alimentation est quand même le premier budget, hein, et même le pain correspond presque à la moitié des dépenses pour la plus grande partie de la population. Et c'est une situation quand même très difficile, peut-être un peu moins difficile que pendant le siège avec les Prussiens où il y avait un blocus vraiment hermétique où des milliers de personnes sont mortes de faim, mais là il y a quand même encore un encerclement en partie par les Versaillais qui ne laissent pas toujours pénétrer les aliments dans Paris. Et donc les communards vont avoir à faire tout un travail de réorganisation et d'aide à la population. Alors d'abord, il y a la capacité qu'ils ont eue de réorganiser toute l'administration, de réouvrir les halles, de réouvrir tous les magasins d'alimentation, et donc de remettre en marche le ravitaillement quotidien de la capitale. Ensuite, pour éviter les problèmes d'inflation, ils ont taxé les prix du pain, faire en sorte que le pain soit pas trop cher pour la population. La Révolution française avait déjà pensé à la taxation du pain, mais enfin, ils la mettent en place pour assurer le ravitaillement de la population. Ils mettent en place des formes de commerce municipalisés, des boucheries municipales, des épiceries municipales, des cantines municipales, qui sont à bas prix. et où la population peut venir s'alimenter. Et ensuite, il faut voir qu'une partie des commerçants ne sont pas opposés à la commune, qui a agi pour que les effets de commerce, justement, ne soient pas payés dans l'immédiat, et accepte aussi des mesures de la commune de limiter les marges que font les commerçants. Et les commerçants qui acceptent de limiter les marges bénéficient de certains avantages. Donc il y a toute une politique qu'on peut encore développer qui permet aux communards d'assurer à la population une nourriture satisfaisante. Il n'y a pas de famine pendant la commune et on ne se plaint pas de cette situation. Donc ça, c'est le premier point, parce que se nourrir était la question vitale et les communards ont réussi à assurer cette question. Alors, il y avait un deuxième point qui était très important pour la population, le logement. Beaucoup de gens habitaient dans de très mauvaises conditions à Paris. Il y avait eu le développement de l'haussmannisme et avaient été rejetés dans des taudis, dans les arrondissements périphériques. Beaucoup avaient du mal à payer leur loyer et beaucoup avaient du mal à trouver un logement même. Alors, vous savez qu'une des principales causes du déclenchement de la commune, c'est la suppression du moratoire des loyers. C'est-à-dire que pendant le siège, on avait pu ne pas payer les loyers et le gouvernement de Thiers, en mars, décide de faire payer les loyers, y compris les loyers qui n'avaient pas été payés pendant les 6 mois précédents. Pour les populations, c'était très, très dur de repayer tout d'un coup 6 mois de loyer. Et la commune a trouvé une solution qui se base quand même sur une idée de justice sociale, c'est-à-dire de ne réclamer les loyers non payés qu'aux loyers les plus élevés. C'est-à-dire que l'idée que les locataires riches qui payaient des loyers élevés, il n'y a pas de raison qu'ils soient dispensés de payer les loyers en retard, mais que les petits loyers, ce qui était quand même la grande masse de la population qui payait des loyers quand même assez bas, eux seraient définitivement dispensés de ces loyers en retard. Au grand dam d'ailleurs des propriétaires, il y a beaucoup de caricatures qui montrent le nez des propriétaires qui s'allongent parce que les loyers ne seront pas payés. Alors, l'autre grande question, c'est qu'elle décide d'interdire toute expulsion pour loyer non payé. Donc ça aussi, ça fait quand même un grand bruit. Et enfin, la troisième grande mesure sur le logement de la commune, peut-être la plus actuelle par certains côtés, c'est la décision de réquisitionner les logements vacants pour y installer les personnes non logées. Alors au début, c'est une décision un peu de circonstance. Mais petit à petit, on voit que ce but de circonstance s'élargit à l'idée que tous les gens qui n'ont pas de logement ont droit à un logement. Et on voit que c'est effectif dans les arrondissements, on voit les ordres de réquisition, les visites dans les habitations et les concierges qui sont sommés d'ouvrir les portes des logements vides aux habitants qui n'ont pas de logement. Donc ça, c'est aussi une mesure très très importante, tout ce qui a été fait sur les loyers. La troisième grande mesure sociale de la commune, c'est tout ce qui concerne la santé. Dans une population qui n'a aucun... Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a rien. Hein. Quand on est malade, on n'a aucun moyen de se soigner. Quand on est vieux, on est obligé de travailler jusqu'à son dernier jour. Et si on ne peut plus travailler, on va à l'hospice misérable des vieux à Bicêtre ou à la salpêtrière pour les femmes. Là, la commune va aussi prendre un peu dans l'urgence des mesures qui seront quand même très, très significatives. La laïcisation de tous les bureaux de bienfaisance. Donc la première chose, c'est le remplacement de toutes les sœurs par des laïcs dans les bureaux municipaux d'assistance qui deviennent des bureaux d'assistance publique. À côté de ça, ils installent des consultations gratuites. Donc là, c'est très radical, hein. Ils ouvrent au maximum dans la mesure de leurs possibilités. Ils demandent à des médecins d'assurer des consultations gratuites, d'ouvrir des consultations gratuites pour la population la plus modeste, donc là c'est la situation la plus radicale, et ils créent des pharmacies municipales pour fournir les médicaments aux gens les plus modestes. Donc là il y a aussi tout un secteur où ils essayent de mettre en place des soins pour les plus précaires.
Voilà, donc la commune met en place un certain nombre de mesures et va s'intéresser aussi à travers notamment la commission du travail et de l'échange avec le délégué Léo Frankel dont on a déjà parlé, à l'organisation du travail et va prendre des décrets assez importants.
Oui, alors là encore, il faut peut-être rappeler les circonstances, dire que les ouvriers qui était la population la plus nombreuse à Paris, hein, puisque Paris, en 1870, c'est une ville où il y a 500 000 ouvriers, ce qui est absolument énorme. Et donc ces ouvriers ne bénéficient d'absolument aucun droit. On est encore sous le régime de la loi Le Chapelier, en fait, issue de la Révolution française, c'est-à-dire la liberté, entre guillemets, une sorte de libéralisme total sur le marché du travail. Il n'y a pas de protection, il ne doit pas y avoir d'entrave à ce marché du travail. Donc il n'y a aucune protection, aucune limite en temps de travail. Le salaire ne peut pas être garanti, il se fait par fixation de l'échange. Voilà. Les femmes travaillent... pas autant quand même que les hommes, hein. L'activité des femmes est moins élevée, mais il y a énormément de femmes qui travaillent parce qu'il faut vivre. Hein. Et les femmes, pour un même travail, c'est difficile à voir parce que c'est rare qu'il y ait un même travail, mais en gros elles gagnent deux fois moins que les hommes. Quant aux enfants, normalement les enfants ne doivent pas travailler avant 11 ans, mais on trouve assez souvent des enfants de moins de 11 ans qui sont amenés au travail parce que l'inspection du travail de l'époque... ne fonctionne que très médiocrement. Alors, la commune va prendre un certain nombre de mesures, dont la première, enfin, c'est pas vraiment la première, c'est aussi déjà une méthode, ça compte, c'est de décider qu'elle ne prendra de décision que systématiquement en accord avec les syndicats. Les syndicats qui s'étaient déjà un peu créés à la fin du Second Empire, mais qui étaient assez fragiles et qui étaient interdits d'ailleurs, puisque le droit syndical viendra bien après la commune. Là, les syndicats se reconstituent pour voir des assemblées de la plupart des métiers et vers le 20 mai, on va annoncer la grande réunion des syndicats parisiens pour reconstituer une grande somme syndicale parisienne. Donc malheureusement, il est un peu tard. Les premières décisions, ce seraient des décisions... qui serait de l'ordre du droit du travail. C'est-à-dire que la commune invente, c'est vraiment la peur de l'invention du droit du travail. Des mesures qui ne sont peut-être pas considérables quand on les regarde maintenant, mais qui à l'époque avaient beaucoup d'importance. Par exemple, la suppression des amendes. Les amendes étaient quelque chose de très insupportable pour les ouvriers, d'autant plus qu'on les retenait sur leur salaire. Donc souvent les salaires de l'ouvrier étaient diminués d'un pourcentage non négligeable. Une affaire. Donc la commune supprime toutes les amendes et toutes les retenues sur salaire. Il faudra attendre en fait 1930 hein, pour que cette décision qui sera annulée après la commune, évidemment par les Versaillais, reprenne force de loi. Donc ça c'est la première mesure. La deuxième mesure, ce sont des mesures concernant la durée du travail. Là où la commune pouvait agir, elle installe la durée du travail à 10 heures. Ça peut paraître évidemment beaucoup actuellement, mais les journées de travail à l'époque étaient facilement de 12 heures, voire 15, 17 heures hein, dans certains métiers. Sur la durée du travail, l'autre chose, c'est évidemment une mesure qui a beaucoup fait parler, et parfois fait discuter, c'est la suppression du travail de nuit des boulangers, au grand dam des patrons boulangers, parce que les patrons boulangers vraiment fait le forcing pour que cette mesure ne soit pas adoptée par la commune. Il y a des mesures concernant les salaires. Alors il y a des mesures de resserrement de la hiérarchie des salaires, et donc ils fixent un maximum de salaires. De façon à ce que la hiérarchie des salaires ne soit pas plus grande que de 1 à 5. Un point qui est très important, c'est le décret qui décide de l'égalité des salaires des institutrices et des instituteurs. Donc c'est le premier vrai décret qui fixe l'égalité des salaires des femmes et des hommes pour un même travail. Les institutrices et les instituteurs n'obtiendront cette égalité de salaire qu'en 1919. Et enfin, ils essayent de faire pression sur les salaires en imposant dans les cahiers des charges des entreprises qui travaillent pour la commune, ils posent une exigence de salaire minimum. Après, il y a des mesures qui s'inscrivent dans ce que j'appellerais moi le droit au travail. Il y a beaucoup de chômage. Une des premières mesures, celle que vous évoquiez tout à l'heure, c'est effectivement d'essayer de faire des choses au niveau des bureaux de placement. Alors la deuxième mesure, la plus importante, elle est venue de l'Union des femmes. Elle proposait que les ateliers vacants soient réquisitionnés et mis aux mains des femmes qui travaillaient sous association.
Ce qui va donner le décret du 16 avril sur les ateliers.
Voilà, ce qui va donner le décret du 16 avril sur les ateliers.
Je crois que la création de l'Union des femmes, c'est le 11 avril.
Voilà, c'est quelques jours avant que l'Union des femmes, elle avait déjà commencé à travailler avant, les Dmitriev et les autres, pour préparer ce genre de texte. Mais c'est vraiment elles qui ont lancé la réflexion sur ce sujet, parce que peut-être l'urgence pour le travail des femmes était encore plus grande. Parce qu'elle ne pouvait pas être garde nationale et toucher un petit chose, etc. Donc il y avait vraiment une situation dramatique pour certaines d'entre elles. Donc c'est ce fameux décret qui décide donc que lorsque les patrons sont absents des ateliers, la commune plus exactement, peut réquisitionner ces ateliers pour les donner aux ouvriers sous forme de gestion ouvrière. À la connaissance des historiens, il y a une seule boîte qui a été vraiment réouverte, qui est un atelier de fonderie dans le 15e arrondissement. C'est la seule application réelle de ce décret. Mais il reste quand même qu'il a une très grande portée. Il avance quand même l'idée qu'un atelier abandonné peut être repris par les travailleurs. Ce n'est pas un décret d'expropriation.
Ouais, ça prévoyait une indemnité.
Puisque ça prévoit une indemnité.
Mais en échange, je crois, de cession définitive.
En échange de cession définitive. Et ce qui est frappant, c'est que ces mesures de socialisation, c'est pas des mesures de principe, c'est parce qu'il faut produire qu'on va la socialiser. C'est pas parce qu'on va supprimer le capitalisme, c'est parce que c'est la condition pour relancer la production.
C'est donc ce décret favorise aussi la création partout où c'est possible d'associations ouvrières par les travailleurs. Je pense qu'on peut en parler un peu de ce modèle de l'association ouvrière.
Alors il y a effectivement un encouragement à l'association ouvrière de production, que ce soit d'ailleurs dans ce décret-là, puisqu'il prévoit que ce sera une association ouvrière organisée par le syndicat, en fait, puisque c'est les syndicats qui sont censés, après, créer ces associations ouvrières. De la même façon, ils encouragent les associations ouvrières en disant qu'elles auront en priorité les marchés de la commune, hein, plutôt que le privé, dans la mesure du possible. Donc il y a l'idée de l'association ouvrière. Alors, elle est proche, mais elle n'est pas exactement les mêmes que l'idée de l'autogestion dans les grandes entreprises. L'association ouvrière, c'est une idée qui revient centralement du socialisme français, là encore, du 19e siècle. Une série d'ateliers de taille petite ou moyenne pourraient s'associer dans cette association ouvrière et fonctionner de façon collective, dans des unités de petite taille. Donc à ce niveau-là. Et puis il y a un autre niveau qui est celui qu'on trouve dans les ateliers du Louvre, qui là est une grosse entreprise où travaille 800 à 1000 personnes, qui est une entreprise d'ailleurs en partie d'État, puisqu'elle travaille pour l'État, mais avec un certain nombre de capitaux privés, donc qui est là une grosse entreprise, et comme il y en a quelques autres, où là, ce qui est mis en place, c'est pas vraiment une association ouvrière comme celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est vraiment des formes d'autogestion, c'est-à-dire comment les ouvriers d'une grande usine vont pouvoir gérer cette usine. Donc là, on voit bien dans le règlement des ateliers du Louvre, et qui est tellement important qu'il passe au journal officiel, donc il devient le modèle espéré par la commune de gestion de ces grandes usines. Le directeur est nommé par les ouvriers, des conseils où sont représentés des délégués, des ouvriers, etc., vont se réunir très fréquemment pour gérer la production, l'embauche. Donc il y a vraiment une forme de contrôle ouvrier et de gestion ouvrière qui est mise en place dans ces grandes entreprises. Mais évidemment, ça n'a de sens que dès lors qu'il s'agit d'une entreprise qui, là, serait collectivisée, parce qu'on ne peut pas faire de l'autogestion dans une entreprise qui resterait privée. Ça me paraît impossible.
Voilà, si on a le temps de revenir rapidement sur quelques mesures en ce qui concerne l'éducation.
En ce qui concerne l'éducation, moi j'insisterai sur deux choses. Bien sûr, il y a la laïcité, qui est évidemment un aspect clé de l'éducation. C'est la séparation de l'Église et de l'État qui permet la laïcisation des écoles. Mais je dirais qu'il y a deux grands projets sociaux de part de la commune. C'est un, la gratuité scolaire, parce qu'ils souhaitent la démocratisation de l'école. Ils sont tout à fait comme Victor Hugo, hein. ouvrez une école, vous fermerez une prison. Donc, ils souhaitent la généralisation de l'école. Il y a la moitié des enfants qui ne vont pas à l'école, de fait, hein. À cette époque. Un peu plus, quand même, à Paris, vont à l'école, mais en France, c'est la moitié seulement. Et on voit, dans les écoles, on voit arriver les circulaires disant, demandant aux instituteurs de ne plus faire payer les fournitures. On voit les mairies commander les cahiers, les porte-plumes, l'encre et tout ça pour qu'elle soit maintenant donnée aux élèves. Donc il y a la gratuité qui est un aspect important, il y a l'obligation qui est un aspect important, parce que l'obligation c'est une façon aussi sociale de... parce que souvent les enfants les plus modestes, pour différentes raisons, ne vont pas à l'école. Il y a l'obligation qui est aussi une mesure très importante, donc la gratuité, l'obligation, et aussi dans leur esprit ce qui s'appelle l'instruction nouvelle, qui est de faire une école... qui associerait beaucoup le professionnel et la culture générale. Ils n'ont pas de projet sur les lycées et l'université pour eux, c'est trop loin de leur mentalité. Donc ils ne raisonnent que sur enseignement primaire et puis ce qui serait les collèges actuellement. Hein. Par contre, ils ont l'idée qu'il faut faire des écoles professionnelles après l'école primaire, où s'associerait très fortement la formation de l'esprit et la formation au métier. Et ils en ouvrent d'ailleurs deux grandes écoles professionnelles ouvertes à tous, qui sont des écoles professionnelles d'art, celle pour les filles et celle pour les garçons, qui n'ont pas pu ouvrir, mais qui étaient en train d'ouvrir la dernière semaine de la commune.
La grande attaque s'annonce. Le 16, l'Assemblée a refusé de reconnaître la République comme gouvernement de la France. Le 17, Versailles démasque les batteries de Brèche contre les portes de la Muette, d'Auteuil, de Saint-Cloud, du Point du Jour et d'ici. Les batteries en arrière broient sans relâche l'enceinte du Point du Jour et saccagent Passy. Les pièces du château de Bégon bouleversent le cimetière Montmartre, atteignent jusqu'à la place Saint-Pierre. Paris a 5 arrondissements sous les obus.
La lampe le matin au clairon du coq se rallume. Nous tous qu'un salaire incertain ramène avant l'aube à l'enclume. Nous qui des bras, des pieds, des mains, de tout le corps luttons sans cesse, sans abriter nos lendemains contre le froid de la vieillesse. Sans relâche tendu au flot jaloux, au sol avare, ravissent leur trésor perdu, ce qui nourrit et ce qui part. Perles, diamants et métaux, fruits du coteau, grains de la plaine. Pauvres moutons, quel bon manteau, ils se tissent avec notre laine. Tirons-nous des labeurs qui courbent nos maigres échines? Où vont les flots de nos sueurs? Nous ne sommes que des machines. Nos babels montent jusqu'au ciel, la terre nous doit ses merveilles. Dès qu'elles ont fini le miel, le maître chasse les abeilles. Vêtus, logés dans des trous, sous les combles et dans les décombres, nous vivons avec les hiboux et les larrons amis des ombres. Cependant notre sang vermeil coule impétueux dans nos veines. Nous nous plairions au grand soleil et sous les rameaux verts des chênes.
Et quand nous pourrons nous unir pour toi à la ronde, que
chaque fois que par torrent notre sang coule sur le monde. C'est toujours pour quelques tyrans que cette rosée est féconde. Ménageons-la dorénavant, l'amour est plus fort que la guerre. En attendant qu'un meilleur vent souffle du ciel ou de la terre.